années 94, quand j'étais dans cette dépression générale, et que cette couple est venue, tant qu'il y avait cette onction spéciale, l'onction du Père, la bénédiction du Père, et c'est vraiment, comme je dis, le Saint-Esprit m'a tombé dessus, et toutes choses sont parties, comme pour moi c'était une résurrection. Quelqu'un qui a vécu ce qu'il a vécu, il faut 23 ans, il faut reprendre. Moi, je suis sorti dans un jour. Un jour après ça, je suis ressuscité. J'étais parti pendant une heure comme un fou. J'avais vécu du mal dans la tristesse, dans la dépression. Le Saint-Esprit est tombé dessus, donc j'ai commencé à rire comme un fou pendant une heure. C'était comme. C'était ma guérison, donc. C'était pas ce soir qui s'est passé après. Mais depuis ce moment, tout est devenu à la vie. La parole de Dieu était nouvelle. L'amour de Dieu était nouveau. On a commencé à vivre dans les choses dans le ministère qu'on ne vivait pas avant. Dans des choses qu'on n'avait pas besoin de mettre trop de nous-mêmes, parce que c'était lui qui le faisait. Et là, j'ai appris ce que ça veut dire vivre, faire les choses à l'ancien. Comme disait un frère de l'Hollande, nous mettons notre 2% et Dieu met le 98%. C'est formidable parce que, en fait, c'est pas vous. Vous faites juste une petite chose, un petit pas, et le Saint-Esprit fait le reste. Pas dire que vous restez sans rien faire, mais c'est suivre ce qu'il fait. Donc, juste, j'appelle ça. Faire. La sage-femme pour le Saint-Esprit, faciliter ce que le Saint-Esprit est en train de faire, pour faciliter son œuvre. Et après, on a vécu dans les écoles, des choses, et ça c'était le Saint-Esprit, on peut pas c'est pas nous, nous on n'a rien à faire avec ça. Donc c'est beau de voir tout ça, après surtout quand vous allez en Afrique, en Asie, comme on dit avant, qui vit de ça, qu'ils ont déjà une ouverture dans leur esprit. Et alors là, c'est encore plus évident que vous, on n'arrivait même pas à prier, une petite prière, deux mots de prière, que les gens étaient déjà dans l'onction du Saint-Esprit, qui vivaient des guérisons, de délivrance et tout ça. Et vous êtes juste là pour intervenir quand il y a un peu de besoin pour encourager. Pour aider la personne à faire des pas, de responsabilités, et après ça va démarrer toute seule. Les personnes qui étaient par terre, ils pleuraient, après silence, après rigoler dans l'esprit, après ils pleuraient, tout ça, et après ils se levaient, c'était fait. Donc ça, c'est vivre dans l'onction, mais c'est pas quelque chose qu'on vit chaque jour, n'est-ce pas? Et même là, c'est pas qu'on a vécu ça pendant un temps, mais après un moment, on a commencé de nouveau à devenir un peu faible dans ça, c'est quelque chose. Il y a quelque chose que nous devons faire, il y a une chose que Dieu fait, parce que là tout ce moment aussi c'était une initiative de Dieu, donc c'était pas moi je dis rien fait pour l'avoir, donc c'est un cadeau de Dieu, c'est venu du ciel comme ça. Donc, mais bien sûr
on cherchait la présence de Dieu.
Tout devient plus facile. Voilà, donc ça c'est marcher dans le lieu saint. C'est vivre cette onction, vivre cette réalité. C'est là où notre âme est transformée aussi. Donc déjà notre esprit est fortifié, l'homme nouveau est fortifié par la nourriture, par la louange et la prière dans l'esprit. Donc notre esprit nouveau est fortifié, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 3. Mais aussi notre âme est transformée, parce que notre âme doit être transformée. Nos pensées doivent être changées, notre façon de ressentir doit être changée, notre façon de vouloir doit changer. Je dis toujours, comme une blague, quand on vivait dans cette tension, j'arrivais même à aimer ma belle-mère. Et c'était facile.
Vraiment les belles-mères. Hein.
J'aimais tout le monde à ce moment-là, dans l'esprit. On vit des sentiments de l'esprit, on ne veut plus nos sentiments. Donc les choses d'avant étaient difficiles. Maintenant, on a ressenti de ce côté. Donc notre âme était aussi transformée pour penser, vivre les choses différemment. Donc ça, c'est soumis au Saint-Esprit, parce qu'il y a une autorité qui doit s'établir en nous. Le Saint-Esprit dans notre esprit, nouveau, l'esprit nouveau sur l'âme, et après l'âme sur le corps, parce qu'on verra après. Il y a le corps aussi qui doit être touché. On va le voir plus tard. Donc, c'est un lieu où notre esprit humain, nouveau esprit, est fortifié. Donc, notre âme aussi, mais aussi notre conscience de Dieu se développe. C'est-à-dire, dans cette lumière du Saint-Esprit, nous devenons plus conscients de Dieu, de comment Dieu agit dans notre vie. Et on voit la différence entre ce que c'est à nous et ce que c'est à lui. Donc, le discernement spirituel qui. C'est quelque chose qu'on a tellement besoin pour comprendre la différence des choses qui sont de Dieu et de ce qui ne sont pas de Dieu. Nous vivons dans un temps où nous aurons besoin d'un discernement spirituel assez plus aigu de ce qu'on a jusqu'à maintenant, parce que la Bible le dit que surtout dans l'avenir temps, l'ennemi va envoyer des faux prophètes, des faux enseignants, mais c'était déjà dans l'Église primitive, donc on voit l'exemple des Galates. Mais dans les derniers temps, ça va être encore plus évident. Et la chose, c'est que les choses mauvaises, dans ce sens, ne sont pas visibles à niveau naturel. À niveau naturel, tout semble bien, mais il faut le discerner dans l'esprit, parce qu'on peut même prêcher la parole de Dieu dans l'âme, et même avec des esprits qui ne sont pas le bon. Est-ce que la louange, tout ce que c'est le service à Dieu, n'importe quel service, ça peut être soit dans l'âme, soit dans l'esprit, et parfois, on peut utiliser un ministère pour manipuler, pour contrôler les gens, et ça, c'est pas de Dieu. Mais parfois, les gens ne se rendent même pas compte, comme l'église de Galates, il y avait des gens qui étaient dans l'église et qui les ont ensorcelés, et donc ils sont devenus aveugles à l'œuvre de l'esprit, mais ils ne se sont pas rendus compte. Donc, on a besoin de développer ça. Donc, c'est là que Christ commence à mûrir en nous. Galates 4, 19, c'est la prière, toujours, c'est toujours dans les Galates. L'apôtre Paul dit, « Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est là que Christ commence à se former en nous. C'est quelque chose qui doit grandir dans un homme nouveau pour arriver à vivre Christ en nous. Et après, il y a le lieu trois fois saint. Donc, il y a seulement l'arche de l'Alliance, qui c'est de nouveau une boîte en bois, mais cette boîte est revêtue d'or à l'extérieur et à l'intérieur. Ça, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qui est changé en nous. À ce moment-là, ça veut dire que cette justice qui avant c'était juste l'extérieur parce qu'on était couvert de la justice de Dieu, maintenant c'est devenu une vie normale en nous. Cette justice devient quelque chose que nous on vit. Ça veut dire que l'or commence à se développer en intérieur de nous. Ça veut dire que Christ commence à prendre vraiment sa place dans notre vie qui devient mûr en nous et on commence à le voir. Et donc, s'il y a de l'or, pas seulement à l'extérieur, mais ça devient une réalité intérieure. Il y a un autre texte en hein, Jean 2, 12, 14, qui parle des quatre différents niveaux de maturité, quatre générations dans l'Église, les bébés, les enfants, les jeunes, et les pères et mères. Et quand on arrive aux jeunes, il dit, la parole demeure en vous et vous avez vaincu le malin. La parole de Dieu, pas seulement dans votre tête, mais vous l'avez intégré en vous, ça devient, vous êtes en train de vivre la parole. Donc c'est ça qu'on trouve ici dans cette l'arche de l'Alliance. Il n'y a pas de lumière là-dedans, il n'y a ni lumière naturelle, il n'y a pas de chandelier, il y a une autre lumière, que c'est la Shekinah de Dieu, ça veut dire la présence réelle, manifeste de Dieu. C'est ça qu'on devrait avoir. Soit à un niveau individuel, soit à un niveau communautaire. Il n'y a plus rien, c'est plus seulement l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est le moyen avec le Saint-Esprit. Dieu agit en nous, mais là, c'est plus que ça, c'est vraiment la présence directe de Dieu et que nous touchons sa gloire. C'est la dimension de la gloire. Ce que, en effet, dans ce temps qu'on vivait l'onction, beaucoup on aspirait à ça, à faire ce saut de qualité, de passer de l'onction à la gloire, parce que ça serait le passage normal. Mais si on sort de l'onction, déjà, c'est difficile de rentrer dans la gloire. Il faut toujours passer par le lieu saint pour arriver à la gloire. Et, en effet, on peut percevoir cette présence de Dieu, mais vivre dans la gloire, comme vivait le grand sacrificateur, c'est un peu différent de ce que quelques-uns, bien sûr, ils ont vécu ça, mais ce n'est pas encore la vie normale de l'Église. L'Église, c'est nous, je veux dire, dans le sens. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait vivre. Donc, Moïse, il a vécu. Il n'a vécu pas dans le temple, il a vécu sur la montagne, mais il y avait un effet. Le fait qu'il était la présence de Dieu, c'est que son visage était comme une ampoule à LED. Les gens n'arrivaient pas à regarder. C'était cette lumière blanche qu'on a. Les LED, ils ont une lumière blanche. Ça fait un peu. Et donc, c'est tellement rayonnant de la présence de Dieu. Les cellules de son corps étaient après. Ça veut dire ça. Hein? C'est pas seulement spirituel. Notre corps peut être tout affecté par la présence et notre cellule vont être devenir lumineuses. C'est ça qu'on cherche à faire. Non? Et comme dit David, je dis toujours, Seigneur, donne-moi de voir ta gloire ici sur cette terre. Parce que après, la voir dans le ciel, c'est normal, on n'a rien fait. Mais la voir sur cette terre, c'est une autre chose. N'est-ce pas? Et je pense qu'on peut, c'est vivre la réalité de Dieu maintenant vraiment à partir de l'esprit, où on peut vivre les choses de Dieu dans l'esprit, centré dans notre esprit. C'est pas, il y a très peu de l'âme, si on peut dire, et il y a beaucoup d'esprit, même si notre âme de quelque part est affectée. Peut-être après, comme résultat, quand on sort de là, parce qu'on ne pourrait pas vivre toujours dans cette condition-là, autrement on serait jamais présent ici, je dirais. Si on pourrait vivre ça, on ne serait jamais présent, parce qu'on serait toujours dans quelque part, donc au troisième ciel, je ne sais pas. Mais dans l'esprit, nous pourrons vivre cette réalité. Donc, c'est plutôt vivre vraiment dans l'esprit ce que l'apôtre Paul dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Wow. Seigneur, aide-nous.
Alors, c'est ça qui, dans les moments, par exemple, où il y a eu vraiment une visitation du Saint-Esprit très forte, l'Église, le corps de Christ, les chrétiens, soit individuellement, soit collectivement, ils ont vécu beaucoup de moments comme ça. Donc, vraiment, la présence du Saint-Esprit était tellement forte qu'ils étaient comme. Mais nous, un peu aussi, on l'a vécu dans les années passées. On ne voulait jamais partir de là. On est toujours resté dans la présence de Dieu. On n'avait même plus l'envie. On n'avait pas lundi parce qu'on était malade.
On n'avait pas besoin.
On avait des priorités. Il y a des priorités. Donc, c'est ça que je pense que nous avons aspiré. Que la gloire du Seigneur puisse. Mais il faut faire les bons états. C'est très important ce qui est dit. On ne peut pas arriver à la gloire si nous n'avons pas mis à mort aussi le vieil homme et nous n'avons pas commencé à marcher à la lumière du chandelier.
Parce qu'en effet, il y a des choses que nous pouvons. J'ai entendu une voix. L'après-midi, on prendra du temps pour poser des questions. Oui, je veux dire, il y a tout un aspect individuel et un aspect communautaire, parce que Dieu cherche encore un peuple. Je pense que vraiment vivre cette dimension de Dieu très saint, ça doit être une chose qu'on peut vivre au niveau communautaire aujourd'hui. Nous sommes tous des sacrificateurs aujourd'hui, et sacrificatrices, je peux traduire. Donc nous sommes tous qualifiés pour entrer dans le lieu très saint et de vivre soi, de vivre ça. Donc, si nous sommes tous sacrificateurs, nous sommes une communauté de sacrificateurs, donc cette expérience, ça devrait être aussi une expérience communautaire. Je sais que parfois, on est content de ce qu'on a déjà. Et donc, on ne peut pas aller plus loin. Je m'appelle, je fais toujours cet exemple, ce dimanche, on était au culte, il y a eu une louange qui était vraiment « Seigneur, pardonne-moi, c'était nul. » Donc, dans le sens, c'est du bon chant, de bonne musique, mais à niveau d'esprit, rien du tout. Après, le pasteur se lève et dit, ce matin, il y avait une présence de Dieu. J'ai l'impression d'être au ciel. Enfin, ce sera ça le ciel. Moi, je dis, alors, je ne veux pas y être. Si ça, c'est le ciel, alors bonjour, je reste. C'est celle-là, je dis. Mais quand on est convaincu de ça, que ça, c'est déjà le ciel, qu'est-ce qu'on cherche de plus? Et quand votre pasteur vous dit que ça, c'est le ciel, les gens, normalement, ils pensent que, parce que le pasteur est pasteur, donc c'est vrai. Et donc, ils n'attendent plus rien. Parce que le pasteur a dit que ça, c'est le ciel. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, là, ça, c'est un bon problème. Donc, nous aussi, on peut le dire nous-mêmes. Donc, voilà. Bon. Il y a, dans l'Arche de l'Alliance, c'est intéressant, parce que l'Arche de l'Alliance, d'un côté, représente Jésus, avec le propitiatoire. Toi, mais représente aussi notre vie, parce que l'arche, c'est nous, on a dit. L'arche de l'Alliance, c'est notre humanité, revêtue d'or à l'intérieur et à l'extérieur. C'est intéressant de ce qu'on trouve dans l'arche. Il y avait dans l'arche. Déjà, il y avait les deux tables de la loi, et ça, c'est ce qui était caché dans l'Alliance, on ne le voyait pas. Et ça, c'est dans l'arche, pardon, de l'Alliance. Le fait qu'on ne la voyait pas qu'il y était, c'est comme l'espérance que nous devons vivre, que la parole de Dieu, maintenant, c'est en nous. C'est plus quelque chose à l'extérieur de nous qu'on connaît, mais c'est devenu, comme dit Jean, la parole de Dieu demeure en vous. Donc c'est devenu, comme Dieu dit en Ézéchiel, en Jérémie, il dit, je mettrai ma loi dans votre cœur. Ça veut dire, ce ne sera pas des règles à l'extérieur que vous devez suivre, mais pour partir de vous, vous avez intégré la parole de Dieu, vous la vivez de l'intérieur de vous. Ça, c'est la réalité de maturité, ça, c'est le niveau de maturité dont on parle ici, de ce niveau. L'autre chose, c'est la manne, cette nourriture qui vit en nous, là aussi, c'est plus quelque chose de l'extérieur, c'est devenu notre réalité. La manne, en fait, c'est Jésus, le pain du ciel, qui maintenant demeure en nous. Donc, c'est plus le pain sur la table, c'est le pain qui est en nous maintenant. On se nourrit directement de ce qui vient du ciel. Et l'autre chose, c'est la verge d'Aaronne, qui ça représente l'autorité, c'est-à-dire la faveur de Dieu, le choix de Dieu et l'autorité que Dieu nous donne. Parce qu'enfin, ça voulait dire ça, quand le peuple se plaignait, pourquoi Aaronne? Alors Dieu dit, ok, prenez chaque chef de famille, prend une verge de c'était une branche d'amande, un exemple de ce qui s'est passé avec Aaronne, donc. Vous le mettez dans ma présence le 12, et demain matin, vous allez voir. Le lendemain matin, tout sec. Donc, c'était des bâtons d'autorité, qui représentaient l'autorité de ces 12 leaders. Donc, mais les autres 11, ils étaient comme le soir d'avant. C'est là d'Aaron, ils avaient mis des bourgeons, ils avaient mis des feuilles et des fruits. Le riz et des fruits. Tous et tous au même moment, comme quelqu'un a dit, ils étaient tous là au même moment. Des bourgeons, des feuilles, des fleurs et des amandes. Donc, et ça, c'est la signification, c'est la vie de résurrection. C'est-à-dire que cette branche sec a repris la vie et l'a donné des fruits. Et ça, c'est le signe que Dieu avait choisi Aaron pour lui donner cette autorité d'être le grand sacrificateur. Et c'est la même chose pour nous. L'autorité, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous, ce n'est pas une position. Nous, on a l'habitude de penser à l'autorité comme une position d'autorité. Mais l'autorité, c'est quelque chose qui doit être à l'intérieur parce que ça vient de Dieu. Soit on l'a, l'autorité, soit on ne l'a pas. Ce n'est pas parce qu'on est dans une position d'autorité comme responsable qu'on a l'autorité. En effet, nous avons tous une autorité. Mais l'autorité, ce n'est pas quelque chose qui vient de ce que nous faisons, donc d'une position, mais c'est fait que c'est quelque chose qu'on a reçu de Dieu, parce que Dieu a reconnu qu'on peut nous faire confiance, de nous donner cette autorité pour faire les choses pour lui. Et ça, c'est quelque chose de l'intérieur.
Selon l'appel que
Dieu nous donne, l'appel que Dieu nous donne, il donne une autorité spécifique, comme dit l'apôtre Paul. Mais ce n'est pas parce que je suis dans une position de service que j'ai l'autorité. Ministère, ça veut dire service. Donc, parfois, quand on parle d'utiliser le mot ministère, on pense toujours à des gens qui sont là en haut et nous sommes ici en bas, n'est-ce pas? Le ministère, ça veut dire service. Donc, ça veut dire nous tous, nous avons un ministère. Il faut juste savoir lequel. Parce que le ministère que nous avons, c'est ce que Dieu nous a donné. Pour ce ministère, Dieu nous donne une autorité qui vient de lui. C'est son autorité, pas la nôtre. Donc, c'est à l'intérieur de l'arche. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui est établi en nous. C'est pour ça que quand on va dans la parole de Dieu, toutes les personnes que Dieu a appelées à une responsabilité, ils ont vécu des périodes difficiles pour les tester, pour les prouver, pour qu'ils deviennent mûrs, afin qu'ils puissent porter cette responsabilité. Le meilleur exemple, peut-être, c'est Joseph. Joseph avait un appel de Dieu pour devenir un leader de deux nations pour sauver deux nations. Mais pour arriver à pouvoir être à l'auteur de porter cette responsabilité, il a dû vivre tout un passage à partir de la cour de Dieu Saint pour arriver au Dieu Très Saint où il y a l'autorité de Dieu, la sagesse de Dieu qui s'exprime. Dieu ne lui a pas donné Moïse, c'est la même chose. Ce n'est pas que Dieu a donné à Moïse l'autorité dès un jour. Il a vécu 40 ans de désert pour macérer dans le désert. Et après, il dit, maintenant, tu vas. Il m'a dit, non, je ne veux pas, je suis nul, appelle quelqu'un d'autre. Et Dieu dit, non, maintenant, tu es prêt et tu vas le faire avec moi. C'est moi qui vais le faire avec toi. Tu es prêt maintenant. Donc, il avait bien vécu la croix, la mort
aussi.
À soi-même. L'apôtre Paul aussi. David aussi. Donc, il a
parlé de
Jésus. Donc, c'est là qu'on c'est ce que on peut dire, c'est le chemin en fait de maturité, le huios de Dieu qui commence à vivre, marcher par l'Esprit et par la présence de Dieu. Jésus était toujours dans un lieu très simple. Il passait du temps avec le Père, il dit je dis rien que je n'ai pas entendu le Père dire, je fais rien que je n'ai pas vu faire du Père. Je fais seulement, je dis ce qu'il dit, je fais ce qu'il fait. Donc ça c'est le top, ça c'est la vie. Du sanctuaire, même si nous tous nous avons l'accès au sanctuaire, l'expérience est une autre chose. Et dans ce lâche, il y a aussi le propitiatoire qui représente toujours l'œuvre de la croix, et c'est là que le grand sacrificateur aspergeait le sang du sacrifice, parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans cette présence sans le sang. C'est la même chose pour nous. Nous pouvons arriver jusque-là parce qu'il y a le sang de Jésus sur nous. Autrement, on ne peut pas entrer. Le fait que l'arche est couverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur, c'est important parce que la présence de Dieu, Dieu dit que même si nous avons l'accès chez lui, lui, c'est un feu dévorant quand même. Donc, l'or, c'était la protection, c'est la protection pour le bois. Parce que si on rentre avec le bois sans l'or, il n'y a que de la cendre qui reste. Mais l'or, c'est ce qui résiste au bois et qui protège notre humanité. Qui protège le bois, notre humanité, pour vivre dans cette présence. C'est pour ça qu'on a besoin de l'or à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, c'est notre chose. Parce que Dieu reste un feu dévorant, même si nous sommes dans la Nouvelle Alliance. En Hébreu, dit ainsi donc, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la terre. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos peaux pures. Wow. Et c'est là que nous vivons vraiment cette intimité profonde avec Dieu. Il y a une autre chose que, encore dans le lieu saint, c'était le parfum, parce que avant de rentrer dans le lieu très saint, le sacrificateur devait mettre cet encensé dans le lieu pour créer ces nuées de parfum autour de la présence de Dieu pour pouvoir survivre. Et le parfum, c'est une autre chose importante qui a à faire avec Jésus, avec l'onction du Saint-Esprit. Si nous avons Jésus, nous portons en nous le parfum de Christ. Et c'est ça que Dieu le Père doit ressentir. Thomas, ça pue de la chair, on ne peut pas rentrer là-dedans. Donc c'est le parfum de Christ, mais c'est aussi le parfum de l'onction dont on était imprégné dans le lieu saint. Et vous vous rappelez, dans la parole de Dieu, l'onction que utilisait pour le sacrificateur, c'est un terme parfum que Dieu avait choisi lui-même. Il a dit, vous ne mettrez jamais ce parfum sur la chair. Et vous pouvez le mettre seulement sur ceux qui sont choisis par moi. C'est un œil, une huile, un parfum qui c'est pour moi, et donc il doit être mis seulement sur ceux qui sont qualifiés pour porter ça. Donc, nous sommes tous qualifiés en Jésus-Christ, mais nous devons chercher cette onction, ce parfum, parce que c'est ce parfum-là qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu, d'être imprégné par ce parfum. Chanel numéro 7. Et le parfum, ce n'est pas pour les hommes, c'est par Dieu, c'est pour Dieu. Ce n'est pas dire, je suis le moins de l'éternel. Les gens, ah, quel parfum. Nous, on est beaucoup impressionnés par. Mais le parfum de l'homme, pour nous, c'est pour Dieu. C'est pour impressionner lui, pas les gens autour de nous. Ce n'est pas comme une femme qui a le Chanel numéro 5, bien. On le ressent depuis kilomètres. Donc, c'est une autre, ça, c'est le Chanel. Là, c'est pour les gens. Mais ceci, c'est pour Dieu, pas pour nous. Donc. Et c'est là que vraiment l'apôtre Paul, je pense, qui, dans son expérience de croissance, il est arrivé quand il a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ce n'est pas fini comme ça, le chemin. C'est comme pour le grand sacrificateur, quand il était dans le lieu très saint, il sortait, il devait passer à nouveau des étapes en arrière cette fois. Et il y a deux significations dans cela pour nous. La première, c'est que tout ce qui se passe dans le lieu très saint doit quelque part être amené dans les autres lieux. Ça veut dire qu'on l'amène dans le lieu saint, il y a un nouveau niveau de vivre cette réalité. Donc, et ça, c'est le service, c'est une partie du service. C'est la parole de Dieu, soit pour nous nourrir nous-mêmes, soit pour partager la parole, la prière, l'adoration. Donc, ça monte à notre niveau de maturité. Donc, notre âme est encore plus transformée par cette expérience. Après, nous sortons à l'extérieur, dans le corps. Ça veut dire que notre corps aussi doit être influencé par ce qu'on a vécu là. Parce que nous sommes esprit, âme et corps. L'apôtre Paul dit, je prie afin que vous soyez... garder intègre dans toutes les parties de votre être jusqu'à la venue du Christ, esprit, âme et corps, irrépréhensible. Donc notre corps a besoin aussi d'être soigné, parce que si notre corps ne fonctionne pas, comment on va servir Dieu? Mais parfois on ne pense pas à ça. Parfois on prie chaque jour pour que Dieu nous garde en bonne santé, autrement on se ferme à la maison, c'est fini. Nous avons besoin de notre corps. Ça, c'est une autre chose que nous avons gagné, une nouvelle compréhension depuis que Paul est tombé malade, une nouvelle conscience de l'importance de notre corps et que Dieu est intéressé à notre corps et que ce n'est pas une partie quand même doit mourir, donc tant pis. Non, Dieu veut nous guérir. Le salut inclut esprit, âme et corps. Donc, une autre expérience de notre maturité, c'est qu'on a besoin que par le moine en train de chercher, surtout dans ce temps, pas seulement pour nous-mêmes, c'est qu'on doit regagner ce que la croix de Jésus a fait pour nous et que ça a fait avec nos maladies et nos enfermités. Et comme on dit toujours, comme Jésus a dit, en effet, la guérison, c'est le pain des fils et des filles, des enfants. Et comme dit le prince dans l'invitation de ce jour, peut-être mon père ne peut pas donner une grande maison, une grande richesse à ses enfants, mais il y a une chose qu'il peut toujours donner, c'est du pain. C'est très simple. Et c'est Dieu notre Père, donc il nous donne du pain à manger, et le pain, ça fait avec la guérison. Et c'est une chose qu'on a mis à côté pour beaucoup de temps, je dis aussi pour nous aussi, parce que là où nous avons grandi, on ne parle pas de ça. Là d'où on vient, le corps n'avait pas d'importance. Mais Dieu est venu à racheter tout notre être. Et c'est vrai qu'un jour, on doit mourir, au moins que Jésus revienne avant, le Seigneur. Mais, comme dit Der Prince, on peut mourir en bonne santé.
Là, je dis toujours. Moi, je dis toujours.
C'est bien. C'est bien. Avant,
moi, je dis fort.
Abraham, c'était le plus grand nageur du monde, vous savez. Il était bien avancé en âge, mais c'est juste pour. Donc, notre corps, c'est aussi important. Donc, ce qui se passe dans notre esprit, dans la communion avec Dieu, ça doit toucher notre âme et aussi notre corps. Le Seigneur, on a encore du parcours à faire. Je vais vous montrer une autre chose. Dans les images, il y a une partie qu'il y a. C'est un cycle que nous devons vivre. Ce n'est pas une chose. Donc, je fais une image avec la flèche qui descend du lieu saint, qui touche l'âme, le corps. Et après, nous touchons les gens à l'intérieur. J'ai oublié ça. Ce n'est pas que tout ce qui se passe est seulement pour nous. C'est qu'à partir de ce que c'est notre expérience, nous pouvons la donner aux autres. Qu'est-ce que c'était la dernière chose qui faisait le grand sacrificateur le jour du grand pardon? Il sortait et disait, je suis vivant, donc, parce qu'autrement, si Dieu n'avait pas accepté le sacrifice du sang, il serait été grillé dans le lieu saint. Donc, il aurait donc le fait qu'il est sorti à accepter notre sacrifice, il a décidé de rester parmi nous. Waouh! Bon, ça, c'est déjà la première nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que le Père m'a donné de vous bénir. Il dit, je vais te redonner nombre. Chapitre 11, verset 22. Vous bénirez comme ça les enfants, mes enfants, que l'Éternel puisse faire luire sa face sur vous, etc. Et moi, je mettrai mon nom sur eux. Donc, c'était la bénédiction. Donc, tous ceux qui ont vécu dans le tabernacle, dans ce sens, c'est quelque chose pour servir les autres de la part de Dieu. Parce que ce n'est pas nous qu'on doit servir. Peut faire des choses, mais Dieu veut transmettre soi-même dans ce que nous faisons. Ça, c'est le grand défi. C'est-à-dire, à travers le service, Dieu veut transmettre aux autres une bénédiction, de le toucher comme les gens auraient pu toucher la présence de Dieu à travers de l'expérience de Moïse. Mais à ce moment, ils ne pouvaient pas le recevoir. Donc, le service, l'apôtre Paul dit en chapitre Romains 1, 9, le Seigneur que je sers dans mon esprit. C'est très simple. Il dit, ce n'est pas dans le corps, ce n'est pas dans l'âme, je le sers dans l'âme. Ah oui, c'est une autre chose. Le tabernacle nous parle aussi de ça. Je vais parler après quand on parle du service. Mais le premier, quand Dieu appelait le sacrificateur, il leur a donné quatre devoir à accomplir pour lui. Je vais trouver le texte de Deutéronome, chapitre 10, verset 8. Seulement que je l'ai en anglais, pas en français. Je vais chercher avec le truc. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Ça veut dire qu'ils avaient quatre devoirs. C'était porter l'arche de l'alliance, c'est le premier devoir. L'autre chose, c'est, même si c'est se tenir devant l'Éternel, ça veut dire se tenir dans la présence de Dieu, servir l'Éternel, pas seulement de se tenir, et bénir le peuple en son nom. Quatre devoirs de base entre le sacrificateur et le grand sacrificateur. Quatre services. Il y a un jour, j'ai réalisé une chose intéressante qui concerne cette vie de maturité. Ça veut dire que trois quarts du service c'est pour Dieu et un quart c'est pour le peuple. Okay? Porter l'arche, ça veut dire porter la gloire. Parce qu'enfin, l'arche, c'est la représentation de la gloire de Dieu. Se tenir dans sa présence, le servir et bénir le peuple. Et dire, waouh, ça exactement le contraire de ce qu'on fait. Nous, on essaie de servir le peuple pour le plaire, que s'il doit être content. Parce que autrement, s'ils ne sont pas contents, ils quittent. Par exemple. Voilà. Mais en effet, le service premier de tout ça, c'est pour Dieu. Et à partir de ce service à Dieu, alors on peut bénir le peuple. Et si on n'a pas l'autre, on ne peut pas vraiment bénir le peuple. Et ça, c'est notre défi. Et après, je fais un cycle, je fais une image avec un cycle, vous voyez. Dans le sens que ce parcours, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire seulement une fois. C'est quelque chose qu'on doit répéter pour rentrer dans. En 2 Corinthiens dit qu'en contre le visage de Christ, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Différents niveaux. Donc, ça veut dire que je vais repasser, je vais retourner dans le lieu, à l'extérieur, dans la cour, pour revoir ma vie devant la croix, parce que pendant que je rentre dans le lieu très saint de la présence de Dieu, quand même, Dieu m'amène des révélations plus profondes, des choses que jusque hier, je n'étais même pas conscient qu'elles n'étaient pas bonnes. Et maintenant, je deviens conscient. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller le voir à la croix. Déposer ces choses, que ça peut être des péchés, que ça peut être des erreurs, ça peut être même des maladies spirituelles, psychologiques, physiques. Je dois aller à la croix, remettre les choses, recevoir le pardon, la purification, recevoir la guérison des blessures, parce que une des choses que quand Dieu choisissait les sacrificateurs, il devait faire tout un examen de sacrificateurs, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le service s'il y avait un os cassé, s'il y avait des blessures ouvertes, parce que la blessure pue. Il devait être presque parfait. C'est comme quand l'agneau choisissait l'agneau pour le sacrifice, il devait être parfait, sans défaut. Aujourd'hui, ils sont en train, en Israël, de chercher encore la vache rouge pour l'eau de purification. Rousse. Pour la purification, parce que autrement ils ne peuvent pas redémarrer les sacrifices le jour qu'il y aura à nouveau le temple. Okay. Et donc ils cherchent cette génisse rousse. Ils ne doivent même pas avoir un poil blanc. Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Ils ont un allèlement en Israël, ils ont un allèlement en Amérique. Ils avaient trouvé une il y a quelques mois en arrière, mais elle devait encore grandir, donc je n'ai plus eu de nouvelles. C'est pas avoir de défaut, autrement on ne peut pas faire la sacrifier et faire la cendre pour préparer l'eau de purification. Donc là, c'était. Okay. Là aussi, le sacrificateur devait être presque parfait. Il devait le tester dans tout son corps. Il n'y avait rien de cassé pour pouvoir. Et nous aussi, donc, ça veut dire, si Dieu nous révèle aussi des blessures, on doit quelque part sortir, aller à la croix. Remettre les choses en ordre et rentrer. Comme par exemple, nous, en ce moment, on a découvert toutes les iniquités générationnelles. des choses qu'on reçoit des passées générations. Là, on n'avait aucune révélation avant. Donc, on a dû retourner à la croix dans un autre niveau de profondeur pour mettre en ordre notre vie. Ce n'est pas encore fini. Et chaque fois que Dieu nous révèle, on doit à nouveau sortir, si on peut dire, du lieu très saint, de l'intérieur du tabernacle, sortir, aller à la croix, remettre les choses en ordre, purifier, pour pouvoir rentrer. Donc, c'est un cycle. Et dans ce cycle, les choses deviennent toujours plus profondes, parce qu'on a plus de révélations. Des choses que avant c'était, au début, c'était des petits péchés, si on peut dire comme ça, ou sur de grands péchés qu'on découvre facilement, mais après, il y a des choses qui sont plus subtiles, et que c'est seulement dans la croissance avec le Seigneur qu'on a la révélation et on peut l'amener à la croix. Donc, ça devient un cycle, vous comprenez? Et chaque fois, nous pouvons aller en profondeur et être transformés davantage. Et c'est là qu'on peut dire que Christ vit en moi. Il y a un autre texte que Jésus dit, que c'est important, quand il dit « Fleuve de vie sortiront de vos » on dit en français, de votre sein, que ce n'est pas ici, c'est les entrailles. Les entrailles, dans la Bible, quand on parle des choses profondes, pas des entrailles, pas des émotions. Les entrailles sont là où, en effet, c'est une autre façon de dire l'esprit humain, parce que l'esprit humain, on peut le localiser dans nos entrailles, c'est la partie plus profonde. C'est la partie plus sensible. Enfin, les neuropsychologues, ils ont découvert que nous avons un deuxième cerveau, on peut dire, second brain. Une partie où il y a plus de centres nerveux et qui sont plus, ils ont plus d'influence sur nous que notre cerveau premier. Ce sont des choses plus profondes qui vont influencer tout notre être. Et c'est vrai à niveau physique, mais c'est vrai à niveau spirituel. Le niveau de l'esprit humain, c'est plus profond de tout le reste, il a plus d'effet. Donc, Jésus dit qu'à partir de vos entrailles sortiront des eaux vivantes. Donc, ça ne sort pas de nos pensées, de nos émotions, ça sort de ce domaine de relation avec Dieu dans notre esprit. Et ça, cette réalité est là pour couler à l'extérieur de nous et toucher les autres. Et je sais que ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que quand on a vécu cette onction qu'on disait avant dans ce temps-là, on n'avait même pas besoin de toucher des personnes pour qu'ils soient touchés par le Saint-Esprit. On passait juste à côté des personnes, et les personnes tombaient par terre dans l'esprit, et vivaient des trucs pas possibles, juste parce qu'on a compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'il y avait tellement plénitude que ça sortait, et les autres étaient touchés par cela. C'est comme dans les temps de réveil, c'est notre exemple, qu'on appelle toujours le réveil des îles Hébrides à côté de l'Écosse, qui disait que quand il y a eu ce réveil, il y avait le bateau qui passait loin de la côte et que les gens dans le bateau étaient touchés par Dieu sans avoir rien entendu. C'était la gloire de Dieu, cette atmosphère de la présence de Dieu qui avait même dans la mer et qui touchait un bateau qui était en train de passer juste au large des îles. Ça c'est quand le Saint-Esprit agit, c'est comme ça. Donc c'était une communauté réveillée qui vivait dans l'esprit et cette réalité se répandait tout autour. C'est pour ça que les gens se convertissaient dans les champs sans que personne aille prêcher. Après, ils venaient à l'église. Nous on dit venez à l'église, vous allez être. Bon, le Seigneur est capable de toucher les gens sans qu'ils viennent forcément à l'église. Après, ils viennent parce que, bon, ils cherchent la communion. Mais c'est ça la présence de Dieu. Soit à niveau individuel, soit à niveau communautaire. Et ça, c'est quand Dieu est libre, le Saint-Esprit est libre d'agir, que nous sommes rentrés dans cette nouvelle dimension. Okay. Voilà. Il y a d'autres choses, mais on va pas dire maintenant. Est-ce que ça va après l'après-midi? Bon, on peut poser des questions, on peut prier, donc on peut prendre du temps comme ça, mais juste. avant de terminer, c'est-à-dire des choses qui brûlent, qu'on a besoin de. On n'a pas compris, ou qu'on veut exprimer. On prend quelques pourcents de la cause de réforme. Ça vous dit quelque chose?
Oui, si tu
veux.
J'ai pas
question. On a besoin de retourner des choses. Des choses, je veux dire. Je connais depuis longtemps. Je le vois à nouveau de nouvelles perspectives et ça m'aide à.
Je pense que c'est tellement riche qu'on a besoin de digérer un peu.
Oui.
On va digérer déjà un moment. Maintenant.
C'est pas seulement une connaissance, Seigneur, mais tu veux nous révéler les profondeurs de tes choses, de ton Saint-Esprit. Et ce n'est pas des choses que nous pouvons forcément comprendre seulement avec nos pensées. Nous avons besoin de les recevoir dans notre esprit, de savoir que nous savons. Et après, Seigneur, tu vas les rendre compréhensibles aussi avec notre intelligence, à la ressentir avec nos émotions, Seigneur, à les désirer avec notre volonté. Donc, aide-nous dans cette digestion, Seigneur, que tu sais quoi faire dans notre vie aussi. On ne peut pas tout prendre, mais Seigneur, tu veux toucher des domaines spécifiques qui sont importants pour nous, parce que tu nous connais personnellement. Et c'est ça que nous demandons de faire encore aujourd'hui, Seigneur, de mettre davantage de lumière, de révélation dans les domaines dans lesquels tu sais que nous avons besoin et que nous pouvons saisir aujourd'hui. Tu es spécifique, Seigneur, tu travailles de manière personnelle, individuelle, parce que tu nous connais personnellement, quotidien Moïse, et tu connais exactement nos besoins, Seigneur, dans ce moment. Merci, Père, parce que tu n'es pas là pour nous pousser, pour nous tirailler. Tu es là pour nous aider et nous encourager. Et tu prends aussi du temps, Seigneur, pour nous permettre de faire les pas nécessaires pour aller plus loin. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen.